nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes, c'est incroyable, le lundi 19 avril, il est 8h30, et avec moi dans la matinale, le technicien qui ferait pâlir de jalousie, le technicien de Radio Bartas, et ça tombe bien parce que c'est lui, salut Corto.
Salut Ben, bonjour à tous.
Au programme de cette matinale, nous accueillons avec plaisir Nausicaa, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. La Ronceret, c'est à Saint-Laurent-de-Trèves, ce magnifique petit village à 10 km d'ici à peine, un lieu de résidence, un lieu d'expo, un lieu culturel. On parle de tout ça dans un instant. C'est lundi, il n'y a plus de règles. Il est arrivé presque à l'heure. Il est en direct, c'est sa grande première.
J'ai suivi votre exemple, monsieur de Paris.
Raphaël, salut, tu vas bien ?
Ça va.
Alors, tu t'ennuies tellement, faut dire que tu es prof d'histoire, hein, 2 jours par an à peine. Puis nous, on est un peu sado, enfin surtout moi, hein, vu ce que tu mets à chaque fois dans tes chroniques. Histoire bref, de quoi on parle aujourd'hui ?
On va parler de monarchie. Je reste vague exprès pour pouvoir vous surprendre un peu plus.
Ça marche. Il y aura de la musique comme d'hab, il y aura ton interview de détente, Nausicaa, et on commence par l'édito. Ce matin, je vous le dis, le monde marche sur la tête.
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 Mais nous, on retombe toujours sur nos pattes et bim!
Ah les amis, le monde marche sur la tête plus que jamais. Et le pire, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge, ce qui est quand même un comble vu qu'on peut plus y rentrer. Alors comment veux-tu qu'on en sorte ? Moi je m'évertue chaque matinale de faire un édito plus ou moins sérieux sur un sujet qui me touche ou qui touche la rédaction de Bartas. Mais aujourd'hui, rien, que dalle, néant. Je me sens comme un big BD sur une radio de grande écoute. J'ai que dalle, que dalle. Que dalle. Le pire, c'est que c'est même pas parce que je suis allé en boîte de nuit hier, hein, et pas parce qu'elles sont fermées, bah non, c'est juste qu'il n'y en a pas dans le coin. Et bim, 2 lignes de rempli pour rien dans cet édito, encore 4 comme ça, et notre conseil d'administration va me dégager fissa de l'antenne. Alors donc, pas le choix, je me retrousse les manches et au boulot, comme dirait un bûcheron dans le Nord. Ouais, ok, pour celle-là, il faut s'y connaître en géographie, en arbre, j'avoue. Alors, actu. Bon bah, hein, vous avez vu, hein, les Brésiliens sont toujours les plus forts, sauf quand on les bat 3-0. Leur variant, il est super costaud, Jacques-Yves. Ce qui fait que Libé écrit, 2 semaines après la dernière prise de parole du chef de l'État, et alors que la menace du variant brésilien menace, la réouverture de certains lieux s'annonce incertaine. Oh les copains du Brésil, c'est bon, 98 c'est loin, faut pas être rancunier comme ça. Bon, là j'avoue, si nos politiques avaient déjà placé la barre très haute, votre Bolsonaro est complètement hors compète dans la non-gestion de la crise. Tellement calé, on vous la donne la prochaine Coupe du Monde, sans problème. Et pas parce qu'il faut la boycotter parce qu'elle se passe au Qatar dans une catastrophe humaine et écologique absolument aberrante. Non, on vous la donne. Allez, la suite. Une bonne nouvelle. Nous avons un député, je cite, ravi. Je sais plus si c'est dans l'Express ou Le Point ou Valeurs Actuelles que j'ai lu ça. Oui, Raphaël, ou devrais-je dire Monsieur Coudert, ce sont mes lectures préférées. En tout cas, nous avons un député ravi. Pour Jean-Michel Fauvergue, ancien policier d'élite et désormais membre de la majorité à l'Assemblée, la mission est réussie. Il dit, c'est un texte fort qui va marquer le quinquennat, mais aussi une époque. Il parle bien sûr de la loi sécurité globale, non pardon, de la loi pour une sécurité globale préservant nos libertés. Un texte qui va marquer une époque. Tu m'étonnes. Hé, hey, Orwell, tu te fous la gueule là-haut, hein ? Ah, tu te marres bien mon salaud, hein ? Tu leur as filé le mode d'emploi et ils l'utilisent de la meilleure façon qui soit, hein. Et aujourd'hui tu rigoles pendant qu'on a mal à la nôtre. Et pour finir, Média, Monsieur Coudert, votre idole, votre maître, celui qui a réalisé votre parc d'attractions favori dans lequel vous vous rendez au moins 4 fois par an lorsque vous ne vous êtes pas pété le genou en jouant à la marelle, votre dieu, votre cher De Villiers, était face à votre autre idole, Zemmour, hein, c'était vendredi sur Mère de News, pour débattre. Et je sais, oh oui, car j'ai des sources, que comme un bon journaliste, je ne révélerai pas, je sais à quoi vous avez passé votre vendredi soir, Monsieur Coudert. Ah, ne faites pas l'innocent. Vous étiez devant l'un de vos 12 postes de télé à vous délecter des propos misérables de ces 2 individus qui sont vos uniques sources pour enseigner l'histoire de France avec 4 grands F à de pauvres lycéens qui n'y connaissent rien. Oui, monsieur Coudert, vous êtes rentré ici à Radio Partas, cette radio de gauchistes, telle une taupe pour immiscer vos inepties dans nos programmes. Mais nous avons déjoué vos plans machiavéliques. Nous vous avons percé à jour grâce à une enquête méticuleuse réalisée avec Edwy Plenaire à plus de 10 km. Ouais, faut la suivre celle-là. Nous sachons maintenant que pour vous, le royaliste vendéen, nous sachons que vous avez une chanson préférée, celle que vous chantez sous la douche. Tu seras vendéen, mon fils, par nos rois et par nos abbés. Oui, monsieur Coudert, ne vous cachez plus, vous, le fan de Stéphane Bern et de Laurent Deutsch. Maintenant, vous sachez que nous sachons. Je vous avais prévenu, monsieur Coudert, que la vérité éclaterait au grand jour. Oui, monsieur Coudert, j'accuse, tel Émile Zola dans son jacuzzi, j'accuse les royalistes de vouloir remettre à sac notre pays. Mais sachez bien que la révolution est en marche. Nous allons avec tous nos copains gauchistes fermer votre parc d'attractions favori, le Puy du Fou. Même pas peur. Allez, on revient aux choses sérieuses, quoique dans un instant, on écoute d'abord I Wanna Be Your Driver, Chuck Berry. Rock'n'roll le matin, ça fait pas de mal. C'était I Wanna Be a Driver de Chuck Berry, de retour en plateau avec Nausicaa. Tu as ouvert il y a quelques années la Ronceret à Saint-Laurent-de-Trèves, lieu de création, on va en parler. Et d'abord, puisqu'on parle de culture, les temps sont durs.
Oui, c'est vrai, mais il faut garder espoir, on y croit, et même si on ne peut pas confirmer tout ce qui va se passer en 2021, il y a des projets, les artistes sont là, le public aussi, j'espère également les institutions. Voilà, on fait tout pour que dès que c'est possible, il se passe des choses à la Ronceret.
Alors justement, comme la création est encore autorisée, est-ce que ça a continué de travailler à la Ronceret?
Oui, tout de même, il y a des répétitions de chorale, il y a également une création par Brigitte Révelli sur une adaptation de la fable de Jean de La Fontaine, Les animaux malades de la peste, qui est peut-être un sujet d'actualité, je ne sais pas, il faudrait lui demander à Brigitte. Et c'est un spectacle de rue avec des masques et des costumes qu'elle a créés. Et c'est une personne qui a une imagination infinie. Et c'est un bonheur de travailler avec elle. Et nous sommes 6 à travailler en ce moment pour pouvoir, dès que c'est possible, présenter ce spectacle dans la rue.
Croisons les doigts, espérons que ça arrive vite. Alors, comment on en arrive à créer un lieu comme ça? C'est quoi ton parcours avant d'avoir créé la Ronceret?
Oula, bonne question. Je pense qu'il faut être un peu, avoir un peu un grain de folie. C'est sûr que j'étais pas du tout dans le secteur artistique, culturel. J'ai occupé des fonctions commerciales, dont 12 ans dans la finance, donc rien
ah,
à voir.
Ah, oui, rien à voir, effectivement.
Absolument. Et puis, il y a un moment, c'est peut-être l'approche de la crise de la quarantaine, je ne sais pas, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui est important dans la vie. Et je suis revenue à un rêve de petite fille, qui était de créer un théâtre dans cette grange qui a été rénovée. Voilà. Et c'est un lieu de création où se présente, en effet, on essaye de présenter des spectacles qui sont finis, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de présenter le travail en cours. Si les artistes acceptent, je trouve que c'est également toujours voilà, étonnant, impressionnant de voir comment ça se passe finalement une répétition.
Alors, tu as commencé en 2018-2019 la première année, je crois.
Oui, c'est ça. Alors là, 2021, c'est la troisième année officielle. Donc on a commencé en 2019 et 2020, il y a eu des expositions de photographie, des spectacles qui ont été créés, il y en a même un qui devait être après présenté à Boston aux États-Unis. Donc voilà, moi je suis... oui, carrément. Voilà, une pièce de théâtre par de Roger Lombardo, voilà, discours d'investiture de la présidente des États-Unis. Voilà, donc il s'y passe des choses, c'est magique, il s'y passe vraiment des choses très étonnantes. Et à savoir que c'est une résidence avant tout de spectacle vivant. Donc en effet, on accueille des musiciens, des chanteurs, des conteurs, des clowns, des acteurs, mais aussi durant l'été, des artistes peintres, des photographes, des sculpteurs. Et ce qui me tient à cœur, c'est aussi les rencontres entre artistes. J'ai des souvenirs, alors qui sont très personnels, de rencontres entre une photographe, Florence Bonneau, et puis des artistes clowns dans le jardin. Voilà, c'est des choses assez étonnantes à vivre et à voir.
Est-ce que ce lieu est devenu ce à quoi tu rêvais quand tu l'as créé ?
Alors, très très bonne question. Oui, je crois que c'est en train de le devenir. Ça prend du temps, il faut que ça s'enracine d'abord. Et puis, c'est important que ça se fasse avec le public, les habitants, les artistes locaux. Après, bien sûr, il y a des artistes qui viennent de différentes régions. J'espère aussi peut-être du Canada, du Québec en particulier. Voilà, mais c'est en train de le devenir grâce à l'association que j'ai créée avec deux autres personnes, deux grandes, très grandes amies, femmes...
Isabelle et Marie-Noël.
Absolument, voilà, qui sont des femmes au cœur d'or. Elles n'habitent pas sur place, elles sont un peu plus loin du côté de l'île de France. Et cette association donc, s'appelle Joya Encore, qui veut dire à peu près le cœur en joie en langue occitane. Et même si elles n'étaient pas présentes sur place, en fait, je leur ai proposé de participer à cette aventure initiatique, je dirais même, parce qu'elles ont aussi un grain de folie, elles aiment la fête voilà, dans tous les sens, à la fois le spectacle et puis aussi le côté gourmand, parce que j'insiste aussi, cette résidence doit être une résidence gourmande, c'est pourquoi que lors des vernissages, des expositions ou des sorties de résidence, pour moi c'est important que les artistes puissent échanger avec le public autour d'une soupe, d'un gâteau à la crème de marron par exemple, enfin voilà, ça c'est très très important pour moi qu'on puisse échanger et savoir finalement qu'est-ce que c'est l'acte de créer, et puis ça permet aussi de continuer finalement de peut-être créer un autre spectacle.
Alors t'en parles justement de l'association Joya Encore, je le dis bien ?
Absolument, tout à fait.
Est-ce que c'était un statut qui t'apparaissait comme naturel ? Pourquoi pas avoir monté une auto-entreprise ou une micro-entreprise ou un autre statut ?
Oui, c'est vrai. Pour moi, c'était évident que c'était cette association. Enfin voilà, c'était sous forme d'une association. J'ai même pas réfléchi à d'autres formes juridiques. Ça me semblait évident. Et c'est ça qui est assez étonnant dans cette aventure. Moi, qui étais plutôt dans le contrôle, la maîtrise avant, d'essayer de tout prévoir, tout anticiper. Là, il y a une sorte de lâcher. Alors lâcher prise, c'est souvent un terme un peu galvaudé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On fait les choses, mais on laisse. Alors moi, je dirais, c'est la partie des anges. On laisse les anges intervenir et faire aussi ce qu'ils ont à faire. Voilà. Et donc, cette association, c'était pour moi évident. Après, le nom est venu de ma clown Rosette, parce que quand je mets un nez en cuir rouge, je deviens Rosette. Et pour définir Rosette, c'est le cœur en joie. Donc, je suis partie d'elle, en fait. Et je me disais, le cœur en joie, et c'est devenu Joy Encore. Voilà.
Alors, est-ce que pour faire vivre ce lieu, tu as des aides de la part d'institutions, départements, communes ou autres ?
Heureusement, parce que sinon, l'aventure s'arrêterait assez vite, en fait. Et c'est une grande joie de savoir que les institutions publiques me suivent, comme la mairie de Caen et Cévennes, comme la communauté de communes Gorges-Causses et Cévennes, le département de la Lozère aussi. Et je les remercie. Ils peuvent évidemment participer, venir assister aux sorties de résidence, au vernissage. Ça fait chaud au cœur de voir qu'ils sont présents, évidemment avec les artistes, le public, parce que c'est pas qu'une aventure de trois personnes d'une association. Il y a des soutiens d'ailleurs toutes les personnes qui soutiennent l'association sont sur le site internet de Joy Encore, qui a été créé par Philippe Le Bihan, qui était un photographe qui a exposé en 2019, et il m'a proposé gracieusement de créer ce site internet, et je l'en remercie. J'en profite d'être à l'antenne pour le remercier vivement, parce que c'est énormément de temps, la création et la mise à jour d'un site internet, et sa participation est précieuse. Voilà, donc il y a finalement beaucoup de personnes qui sont derrière l'association de Joy Encore en soutien.
joyencore.com. Alors, on sait que pour une compagnie qui va venir faire une résidence, ça a un coût.
Oui.
Combien ça coûte pour une compagnie, une semaine de résidence à la Ronceret ?
Alors, il y a différentes formes. C'est assez souple au niveau de l'aspect de financement d'une résidence. En effet, il y a des résidences qui fonctionnent où tout est gratuit, le logement, la restauration. D'autres font payer que l'hébergement, d'autres font payer l'hébergement et la restauration. Ça dépend en plus si c'est une troupe avec 10 comédiens, si c'est 4 comédiens, si c'est une seule personne. Ça peut être l'hébergement et gratuit, et en contrepartie, lors de la sortie de résidence, on demande une participation au public. Ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros pour deux spectacles, voilà. Et l'intégralité de la somme est reversée à l'association.
Et alors, pour une compagnie, comment ça se passe ? C'est sur dossier ? Ils t'envoient un dossier, etc.
Alors, moi, je ne suis pas une femme de dossier et d'administration. J'ai changé de métier, j'ai changé de secteur pour éviter de faire des dossiers. Alors, j'en fais quand même encore un peu. Mais je trouve que pour les artistes, c'est quand même dur de passer du temps sur l'administratif. C'est très chronophage, très énergivore. Et il faut mieux qu'ils se concentrent sur la création. Et je dirais, j'essaye en tout cas de faire des rencontres de cœur à cœur et de me dire est-ce que ça va dans la ligne directrice artistique de Joy Encore. Et je suis assez souple, parce que en 2019 j'avais accueilli une troupe de comédiens parisiens. Donc huis clos pour jouer huis clos de Jean-Paul Sartre, mise en scène par Sunita Vaz, et je n'aime pas huis clos, je n'aime pas Jean-Paul Sartre.
Ça s'est réglé.
Voilà, mais ceci dit, la rencontre avec la metteur en scène était extraordinaire. C'est une femme au cœur d'or aussi, encore une exceptionnelle, et je lui dis ok banco, et ça me fait aussi réfléchir sur finalement pourquoi cette pièce de théâtre je n'aime pas, enfin voilà, et donc j'ai découvert autre chose. Je n'aime toujours pas huis clos ni Jean-Paul Sartre, mais ça m'a ouvert l'esprit d'autres choses, et donc c'est pour ça il y a pas de dossier. C'est avant tout est-ce que c'est faisable, et puis surtout est-ce que les comédiens vont se sentir bien dans le lieu, parce que il faut être, lorsqu'on est en huis clos comme ça pendant une semaine à 4 ou 5 comédiens, qu'on est vraiment à création, et puis ils travaillent dur, moi je les vois, c'est un travail difficile, ça remue beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions, il faut qu'au niveau énergie et vibration on se sente bien dans le lieu. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de se déplacer pour voir le lieu, mais j'insiste un peu, ou en tout cas je dis écoutez, allez sur le site internet, voyez les photos, voyez comment ça se passe, regardez un peu les environs, parce que ça c'est très important d'être à l'aise quand on est en création, de se sentir dans un espèce de cocon, en sécurité, pour pouvoir aller très loin dans son intériorité.
Le lieu est magnifique, je sais de quoi je cause. Le je sais pas est une expression à la mode en ce moment. La programmation de cet été ?
Je sais pas.
Voilà. Ouais. Je le comprends.
Alors, je ne sais pas, mais par contre, il y a, j'espère, de très très belles choses qui pourront se concrétiser, puisqu'il y a des expositions de peinture, un collectif d'artistes peintres avec France Alti. On est en train d'essayer de mettre cela en place. Il y a également des résidences avec Hugues Joudrin, qui va travailler sur une création à partir d'un texte qu'il a écrit il y a 30 ans et qu'il a travaillé depuis. Également des résidences de clowns. Voilà, et j'espère qu'on pourra maintenir ces veillées contées. On va essayer une première le 22 juin avec contes et rencontres. Donc ça se passe à l'extérieur, évidemment. Et puis après, ça sera tous les vendredis soirs, au mois de juillet, au mois d'août. Tous les vendredis soirs, différents conteurs vont voilà, se succéder pour nous amener dans les pays, le pays imaginaire des rêves.
Alors justement, tu parles de contes, vous adorez ça, alors on serait comme oui. Une bonne tradition Sevenol.
Et bien ça c'est étonnant, voilà, c'est-à-dire que de manière très très personnelle, moi j'adore les contes, et j'ai réalisé en effet que dans ce pays c'était une tradition, et je trouve ça exceptionnel, ces fameuses soirées Place au Beurre, la Florac l'été, c'est étonnant de voir toutes les générations, moi j'ai vu du bébé à la personne beaucoup beaucoup plus âgée, concentrée et vivre les histoires, je trouve que c'est une forme d'art vraiment là. Enfin, peut-être la plus belle parce que ça réunit toutes les générations et ça parle à tout le monde.
Les mardis soirs, les contes de la Place au Beurre, c'est oui. À chaque fois des moments assez magiques.
Absolument.
Les expos, comment tu les sélectionnes ? Ce sont des artistes locaux, des artistes que tu connais ? Comment ça se passe ?
Oui, c'est vrai, c'est des artistes locaux. Après, c'est de bouche à oreille que ça se fait. Il n'y a pas vraiment de sélection. Ça peut être du figuratif, du contemporain. Voilà, ce qui ne rentrera pas à la ronceret, c'est tout ce qui est vulgaire et grossier. Bon, bah voilà, donc après, c'est vrai qu'il y a une tendance à aller plutôt, avec l'association Joy Encore, vers la poésie, l'émerveillement, l'enchantement, l'humour, la légèreté, le rire. Ça ne veut pas dire que, voilà, je me mets la tête dans le sable comme une autruche et je ne sais pas ce qui se passe. Au contraire, j'ai toujours un œil sur bien ce qui se passe dans la vie de tous les jours, la réalité. Mais je pense que c'est important d'ajouter voilà, un regard léger d'autodérision et d'humour, parce que c'est ce qui nous, enfin moi c'est ce que je crois, c'est ce qui nous lie tous, c'est-à-dire que si on commence à perdre de l'humour et l'autodérision, là c'est dommage.
Ouais,
voilà.
C'est clair. Y a aussi pas mal d'ateliers, j'ai vu, on les relaye d'ailleurs sur cette antenne, chant choral, création, j'en passe. Le but c'est toujours d'être dans le partage et de véhiculer des savoirs culturels.
Mais oui, ça me paraît primordial, hein, c'est transmettre, toujours et encore transmettre, et puis après aussi savoir cette vision de transversalité entre les différentes formes artistiques, c'est-à-dire par exemple, je me rappelle d'une exposition de Philippe Le Billan qui avait fait une exposition de photographie en couleur sur la nature, sur la région d'ailleurs, avec de la musique, et donc ça je trouvais ça très intéressant, et il avait également rédigé des questionnaires pour les adolescents par rapport à ses œuvres d'art, et ça je trouve ça toujours voilà, intéressant de mélanger et de faire parler les artistes entre eux, que ça soit des peintres avec des sculpteurs, avec des clowns. Alors j'insiste un peu sur le clown parce que c'est vrai que peut-être au fur et à mesure des années, cette résidence va développer en particulier les expressions artistiques de contes et de clowns. Alors peut-être qu'un jour il y aura des spectacles de clowns qui essaieront de transmettre des contes, mais alors ça je ne sais pas ce que ça peut donner.
Oh, mais tout est possible, pourquoi pas. Alors tu l'as abordé tout à l'heure, la question peut paraître difficile, mais est-ce que c'est 3 ans quasi, hein. Est-ce que tu as eu un coup de cœur, un moment magique qui est gravé à jamais?
Oh, c'est impossible à dire. Un seul.
C'est pour ça que, ouais, voilà,
ouais,
c'est
un seul. C'est très difficile parce que c'est tout le temps. Enfin, c'est incroyable, et je suis mais je remercie, hein, l'univers, je remercie les anges de vivre, parce que ma vie est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un enrichissement humain, créatif, artistique, et puis ça fait travailler sur soi. Enfin, ça fait avancer, ça fait évoluer. Et quand je dis que Joy Encore c'est une aventure initiatique, oui, c'est vraiment le mot. Et les émotions sont C'est tout le temps, c'est de voir les personnes arriver pour une soirée de contes, c'est après les voir partager une soupe voilà, dans le jardin, c'est entendre les personnes dire ce qu'elles ont ressenti sur tel ou tel spectacle, c'est de voir les spectateurs discuter avec les acteurs, le metteur en scène, voire l'auteur, puisqu'on a eu, cette chance-là avec Roger Lombardo. Donc c'est vraiment, il n'y a pas un unique moment, c'est à chaque fois, et je suis toujours très très émue de vivre encore des nouvelles émotions, et très souvent larmes à l'œil, parce que c'est formidable.
La culture, c'est ça qui nous fait rêver. Alors, oui. Qu'est-ce que tu penses de la gestion de la crise, justement, sur le spectacle vivant? Beaucoup d'artistes qu'on a reçus pensent qu'il va y avoir des embouteillages, étant donné que la création a été autorisée, mais pas les représentations. Quel est ton avis, toi, là-dessus?
Joker.
Ça me va. Enfin, en tout cas, nul doute que la culture va reprendre ses droits.
Ça me paraît essentiel, nécessaire, vital, viscéral. Alors, en particulier, moi, c'est vrai que je préconise plutôt le spectacle vivant. Voilà, parce que ce sont des émotions, c'est de la chair, c'est du sang, c'est des sueurs, c'est des larmes, c'est des rires. C'est ce qui fait notre humanité. Donc, pour moi, le spectacle vivant, mais c'est obligatoire, quoi. C'est nécessaire. Si vraiment je crois en cette résidence d'artiste, c'est parce que j'ai eu des émotions exceptionnelles en regardant les spectacles d'Ariane Mouchkine à la cartoucherie de Vincennes, et 35 ans après je m'en souviens encore de ces émotions, et finalement qu'est-ce qui reste à la fin, c'est lorsqu'on passe de l'autre côté, c'est quelles sont les émotions qu'on a vécues avec, et qu'est-ce qu'on a partagé avec ce qu'on aime, enfin voilà, c'est ça qui reste. Donc je crois que c'est ça qui me fait tenir aussi, parce que c'est pas très simple et c'est pas toujours évident. Et puis je me rappelle de ces fameux spectacles d'Ariane Mouchkine sur toute sa série des spectacles de Shakespeare, c'est exceptionnel, ou les Atrides, voilà.
Alors justement, le spectacle vivant, c'est sûr, mais on a vu une autre manière de consommer la culture cette année, hein, sur Internet, des artistes qui ont vraiment utilisé cet espace.
Oui.
Alors, pour toi, c'est bon, c'est pas bon?
Ben, je dirais que c'est complémentaire. À partir du moment où ça ne va pas cannibaliser voilà, tout ce qui est spectacle vivant, à partir du moment où il y a d'autres moyens techniques et qu'on peut exploiter, tant mieux. Mais j'espère que ça ne va pas devenir que ça. Voilà.
Ouais, ça c'est sûr. Est-ce que tu es prête pour une petite interview détente?
Oui, bien sûr, je suis tout à fait détendue, ça tombe bien.
Allez, mon corto, jingle.
C'est l'heure de l'interview détente.
Bah ouais, parce que j'ai pas le droit de dire feel good.
Non, je dois parler français sur cette antenne, sinon je vais disputer feel good, ça ne marche pas. Alors, un livre que tu conseillerais, Nausicaa?
Tous les livres. Ah, oh, ça c'est terrible comme question. Ah, si, tous les livres.
Sauf Huis clos de Jean-Paul Sartre.
Oui, très juste. Je crois que c'est André Suarez qui disait « Il est possible que le livre soit le dernier refuge de l'homme libre. » Donc, moi, si je pouvais dormir dans des livres, manger sur des livres, enfin voilà. Oh, allez, parce que ça me tient à cœur, et j'en ai un peu parlé déjà, c'est « Enquête sur l'existence des anges gardiens » par Pierre Jovanovitch.
Waouh. Et bim. un film?
Molière, d'Ariane Mouchkine, évidemment. Et puis allez, parce que c'est aussi une forte émotion, Le Maître de musique de Corbio avec José Van Damme. Et puis Chantons sous la pluie, parce que c'est
un
grand classique.
Et enfin, un ou une artiste?
Alors, Louis de Funès,
ah ouais.
que je vénère. C'est un artiste qui me manque beaucoup, parce qu'il, c'est, voilà, évidemment, on peut ne pas aimer Louis de Funès, mais c'était un grand, grand, très grand comédien. Et puis, Audrey Hepburn.
Ah ben les deux ont la classe, ça c'est clair. Et d'ailleurs, le fils de Funès, là, qui tourne un film en ce moment, qui sortira normalement après l'été. Bon, alors, comme petite info comme ça.
Très bien.
J'ai un pote qui joue dedans, alors comme
ça. Ah, formidable.
Voilà. Merci beaucoup, Nausicaa.
Merci à toi.
La Ronceret, lieu de spectacle, d'expo, de création essentielle dans un magnifique petit village, je sais de quoi je parle, Saint-Laurent-de-Trèves. Toutes les infos, les contacts, joyencore, joyencore.com. Je mets évidemment tous les liens sur notre site dans un instant. Raphaël.
Oui.
Je le réveille, le gars.
Non, pas du tout.
Histoire bref, t'es chaud pour ta première en direct?
Oui.
Eh ben, on y va, mon corto jingle.
Surtout que j'étais contre.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein?
Histoire brève.
Histoire brève.
Il est temps de rétablir maintenant quelques vérités après votre édito que je qualifierais de fallacieux. On dirait que vous avez fait sur moi ce qu'on appelle en psychologie une projection. Comme si je vous servais de cible pour dénoncer vos propres travers et ainsi purger vos fautes. J'imagine que vous m'en voulez pour quelque chose, comme le démontre l'agressivité exacerbée de votre édito et dont se plaint aussi fréquemment vos collaborateurs. Peut-être suis-je en fait la personne que vous auriez voulu être.
Joker.
Mais bref, ne partons pas en conjecture. Sachez que je ne vous en veux pas. Le train de votre mépris roule sur les rails de mon indifférence. Je ne vous en veux pas parce que la vérité, c'est que je vous sens triste aujourd'hui.
Exactement.
Touché dans votre petit cœur par la disparition soudaine du prince Philippe, mort la semaine dernière à quasiment 100 ans. Je ne vous savais pas monarchiste, mais à la fois s'explique la présence du poster de Stéphane Bern qui trône au-dessus de votre bureau et la présence de la particule de votre nom.
C'est fou, on n'a même pas bossé ensemble, hein, c'est dingue. Ouais.
Après tout, il vous est déjà arrivé quelques soirs mornes entachés par la présence excessive de packs vides de pierres de médiocre qualité, de proclamer votre attachement à la contre-révolution qui rétablirait enfin la monarchie à la tête de notre glorieuse France. Le monarchisme que vous m'imputiez, un peu plus tôt ce matin, est plutôt votre intime conviction à vous. Ce combat pourrait paraître désuet aujourd'hui et les partisans du retour d'un roi en France en voie de disparition, mais il n'en est rien, loin de là. Vous le savez, monsieur de Paris, mais les monarchistes français ont un candidat qu'ils verraient bien porter la couronne et régner sur la France. Il s'agit de Louis de Bourbon, dont le vrai nom est Luis Alfonso Gonzalo Victor Manuel Marco de Bourbon y Martinez Bordio.
Wow.
Mais, monsieur de Paris, savez-vous pourquoi les légitimistes, vous y compris, supportent au prince un prince au patronyme à forte consonance espagnole?
Absolument pas, mais je sens que je vais l'apprendre.
Pour bien comprendre, il nous faut remonter au moment où la dynastie Bourbon arrive à la tête du trône d'Espagne, au terme de 11 ans de guerre avec l'autre grande famille européenne de l'époque, les Habsbourg. Le traité d'Utrecht, en 1713, qui conclut cette guerre de succession d'Espagne, permet à notre bon Louis XIV de voir son petit-fils Philippe V couronné roi d'Espagne. Ainsi naît la maison des Bourbons d'Espagne qui donna à ce grand royaume ibérique pas moins de 11 monarques, jusqu'au trouble des années 1930, où se succèdent une république, une guerre civile et une dictature, celle du Caudillo Franco. En 1949, le généralissime décrète qu'il exerce la régence jusqu'à sa mort, à laquelle succédera automatiquement la restauration de la monarchie. Et c'est à ce titre, et c'est ce qui se passe, en 1975. À la mort de Franco, c'est le petit-fils du dernier roi d'Espagne, Juan Carlos, qui est couronné. Il reste donc des Bourbons qui règnent en Europe, droit descendant de notre bon Henri IV. Nous Bourbons dont nous avons décapité l'un des représentants en 1793. D'ailleurs, monsieur de Paris, en tant que fervent monarchiste, vous pouvez me citer la date de ce funeste jour, n'est-ce pas?
Ouais, mais là, j'ai un truc.
Alors, ne soyez pas timide. Mais oui, vous avez raison, monsieur de Paris, vous le voyez, vous le savez. C'est bien le 21 janvier. Vous êtes incollable, dès que l'on parle de tête couronnée. Je crois d'ailleurs savoir que chaque année, ce jour-là, vous allez déposer une gerbe. Enfin, vous me direz que ce rituel de dépôt de gerbe, vous le faites aussi tous les lundis matin, votre retour de week-end.
Allez.
Mais bon, c'est le geste qui compte, n'est-ce pas? Bref, revenons-en à notre affaire. Avant sa mort, Francisco Franco prit le soin d'assurer l'avenir de ses descendants. Pour ce faire, quoi de mieux que de les marier à la future famille royale? Ainsi, Franco organise en 1972 le mariage de sa première petite-fille, Carmen Martinez Bordio y Franco, avec Alfonso de Bourbon, lui-même petit-fils du dernier roi d'Espagne Alphonse XII, destitué en 1931, et cousin donc de Juan Carlos. Il est par ailleurs désigné héritier du trône français, et oui, il a même un nom, ce serait Alphonse II. De cette union naît en 1974 le petit Luis Alfonso, qu'on pourrait traduire, monsieur de Paris, par Louis Alphonse. Une belle idée de prénom pour tous nos éditeurs qui se posent encore la question du prénom de leur futur enfant. Sachez d'ailleurs que si vous suivez les suggestions du prénom de Radio Bartas, qui sont présentées par monsieur de Paris, vous recevrez un pins de la station ainsi qu'un body 6 mois dédicacé par tous les membres du conseil d'administration de l'association Radio Bartas. En 1989, meurt Alphonse de Bourbon. Louis récupère la plupart des titres, y compris celui d'aspirant au trône de France. Il est donc depuis le champion de tous ceux qui rêvent de revoir une monarchie rétablie en France. Louis de Bourbon prendrait le nom de Louis XX. Louis de Bourbon est donc à la fois descendant de toute la lignée des rois de France depuis Hugues Capet en 987, mais aussi celui de Francisco Franco. Il possède, grâce à sa grand-mère et à son père, la double nationalité franco-espagnole. Notre roi légitime parle couramment le français et y fait, de temps en temps, quelques apparitions. Il est proche du parti d'extrême droite espagnol Vox et s'est clairement positionné en 2013 contre le mariage homosexuel. Il est contre l'avortement, le laïcisme et est devenu le président d'honneur de la Fondation nationale Francisco Franco, à propos duquel il dit en 2010 à Paris Match « Franco a créé la classe moyenne en Espagne, il a créé des forêts, des lacs, des routes, il a empêché que le pays n'entre dans la guerre et que le communisme s'installe. »
Il est charmant ce bonhomme, dis donc.
Évidemment, il y a eu la guerre civile, mais il ne l'a pas voulu. Il ne faut pas gommer l'histoire. Il a raison, il ne faut pas gommer l'histoire et oublier plus de 30 ans de tyrannie en Espagne, n'est-ce pas? Bon, à l'heure où les Britanniques viennent enterrer leur prince consort et où de grandioses cérémonies ont eu lieu, gardons-nous cependant de nous moquer parce que nos familles royales à nous, qui traversent des siècles malgré notre républicanisme, ne sont guère plus reluisantes que les Windsor. Ne vous en déplaise, monsieur de Paris, ou si je dois donner votre nom entier, monsieur Benedictus Ignacio de Parisio et de la Belgica. Amen.
Oh, merci Raphaël. Et en fait, il s'appellerait Louis XX seulement s'il était couronné, c'est ça?
En fait, théoriquement, pour les légitimistes, il est Louis XX, de fait. Même s'il ne règne pas, il est le roi de tous les Français.
Parce que Prévert avait écrit un poème comme ça. Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV, Louis V, Louis VI, Louis VII, Louis VIII, Louis IX, Louis X, Louis XI, Louis XII, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVII, Louis XVIII, Louis XIX. Et puis, plus rien. Mais qui sont ces gens qui ne sont pas foutus de compter jusqu'à 20? Jacques Prévert. Merci beaucoup Raphaël. Merci Courteau. Je te réveille.
Un plaisir.
Merci beaucoup Nausicaa d'avoir accepté notre invitation. Vive la culture, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve évidemment mercredi. Merci à toutes et tous de nous suivre. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Profitez-en bien. Raphaël, on écoute quoi?
On écoute Edvard Grieg, un peu de classique pour dynamiser la matinée. In the Hall of the Mountain King.
Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours si tout va bien pour une émission clin d'œil à l'histoire. Et là, ce sera Napoléon, je crois.
Exactement.
Ouais. Et bien voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte. À mercredi, prenez soin de vous. Ciao. Thank you.